Europe 1.
Nous sommes le vendredi 19 avril, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Plusieurs explosions dans le centre de l'Iran cette nuit, des drones, semble-t-il, abattus par la défense antiaérienne de la République islamique. Est-ce la riposte promise par Israël? Pas de confirmation pour le moment. Europe 1 en direct de Tel Aviv et des États-Unis dans un instant. Autorité et laïcité, les maîtres mots de Gabriel Attal hier dans son discours à Viry-Châtillon. Le Premier ministre propose des solutions pour tenter d'endiguer la violence des mineurs à l'école. Exemple, les internats pour ceux qui se laisseraient tenter par la délinquance. Alors, possible. Nous allons voir ça. Et puis deux clubs en demi-finale d'une Coupe d'Europe cette saison après le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. C'est l'OM qui se hisse dans le dernier carré de la Ligue Europa.
Europe 1.
Le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri. Bonjour à tous. C'est le son qui a marqué l'actualité cette nuit. Au moins trois explosions comme celle-ci entendues dans le centre de l'Iran près d'Ispahan. Moins d'une semaine après l'attaque de l'Iran en Israël, était-ce la riposte promise par Tsahal ou un avant-goût de la revanche israélienne? Beaucoup de questions ce matin et peu de réponses claires. Bonjour Wilfried de Villers.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Envoyé spécial d'Europe 1 à Tel Aviv. Alors que sait-on de ce qui s'est passé cette nuit?
Alors, ce que l'on sait ce matin par le biais principalement des médias et des réactions officielles iraniennes, c'est qu'il s'agirait vraisemblablement d'une frappe de drone dans la région d'Ispahan. C'est en plein centre de l'Iran. De fortes explosions ont été signalées près d'une base militaire de la ville aux alentours de 3h30 heure de Paris. L'Iran affirme avoir abattu trois drones dans la nuit. Ispahan, ville hautement stratégique parce que c'est là que se situe l'un des plus grands centres de recherche nucléaire du pays, mais aucune infrastructure n'a été touchée par ces frappes attribuées à Israël. En fait, elles ont fait globalement très peu de dégâts. Il semblerait qu'il s'agisse d'une riposte à minima de l'État hébreu.
Et Israël n'a fait aucun commentaire pour le moment, Wilfried.
Oui, pas de commentaire du gouvernement ni de l'armée qui n'a pas revendiqué l'attaque de cette nuit en Iran. Un porte-parole de Tsahal précise simplement que les instructions de sécurité à la population restent inchangées pour le moment. Je parlais de riposte à minima. S'il s'agit bien d'Israël, ces dernières heures, plusieurs responsables israéliens disaient qu'il fallait peut-être temporiser, attendre notamment que la semaine de la Pâque juive qui débute lundi prochain soit passée. Et dans le même temps, les médias israéliens citent un haut responsable américain qui affirme que le gouvernement de l'État hébreu aurait prévenu les États-Unis qu'il comptait mener des frappes dans les 24-48 prochaines heures. Une riposte de faible ampleur, peut-être pour éviter une guerre régionale.
Wilfried de Villers en direct de Tel Aviv pour Europe 1. Justement, les États-Unis, on y va avec vous, Aviva Fried, correspondante d'Europe 1. Ce matin, les premières confirmations de cette attaque sont venues de Washington.
Oui, si les frappes ont été confirmées par plusieurs officiels américains, la Maison-Blanche n'a pas encore fait de déclaration. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis l'attaque iranienne ce week-end, les États-Unis n'ont cessé de demander à Israël de faire preuve de retenue. Joe Biden avait prévenu Benjamin Netanyahou que les États-Unis ne se joindraient pas à des frappes. Et Washington avait prié son allié d'être prudent et stratégique. Alors Israël a donc maintenu ses frappes, mais les médias américains relaient une position qui semble se dessiner. Les États-Unis n'ont pas donné leur accord à une opération qui était finalement très limitée. C'était plus un message à l'Iran qu'une réelle volonté de faire beaucoup de dégâts. Washington veut bien sûr éviter un embrasement général, mais veut également éviter de perdre la face. Et Joe Biden lui-même est dans une position difficile. Il s'est impliqué personnellement dans un soutien très fort à Israël, au risque de perdre une partie de son électorat sensible à la cause palestinienne. Et quand Israël fait mine de ne pas écouter ses demandes, cela ne peut qu'affaiblir la position du président américain.
Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis.
Et l'ambassade américaine en Israël ordonne ce matin à ses employés et leurs familles de limiter leurs déplacements à l'intérieur d'Israël.
Par ailleurs, des frappes ont été signalées dans le sud de la Syrie ce matin également. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ce sont des positions militaires qui ont été attaquées.
Alors voilà ce qu'on pouvait dire de l'actualité ce matin au Proche-Orient. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, on va explorer les pistes ouvertes par Gabriel Attal hier pour tenter de mettre un coup d'arrêt à la violence chez les mineurs. A tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est 8h06 sur Europe 1, la suite du journal. Fanny Marceau, Dimitri Pavlenko.
Gabriel Attal reprend son bâton de pèlerin contre l'entrisme islamique dans les écoles, ce sont ses mots.
Au 100e jour de sa nomination à Matignon, le Premier ministre a dénoncé hier des groupes plus ou moins organisés qui prônent les préceptes de la charia, notamment dans les écoles. Et les chiffres le confirment. Au premier trimestre cette année, près de 30% des atteintes à la laïcité viennent de l'école primaire. La plupart sont signalées au collège. Cheikh Mansour est professeur d'histoire dans un établissement REP+, et élu à la laïcité à la mairie de Seine-sur-Mer dans le Var. Il n'est pas surpris par cette hausse des atteintes à la laïcité. Écoutez.
C'était prévisible, cet islam radical qui infuse. Hein. Il y a une réislamisation de la base. Pendant des années, l'État n'a pas défendu son autorité. Hein. Il y avait cette politique de pas de vague. La loi sur la baïa nous a beaucoup aidés, puisqu'il y a une baisse quand même par rapport aux tenues. Mais vous avez une augmentation des contestations et surtout cet assaut hein, des islamistes sur l'école. Parce que l'école républicaine, elle promeut quoi ? L'autonomie et l'émancipation. Ce qui est contraire, bien sûr, à une conception radicale de l'islam, puisqu'on appartient à la communauté avant d'appartenir à une citoyenneté. Beaucoup de nos collègues s'auto-censurent parce qu'ils ne veulent pas être mis en difficulté. Vous risquez votre vie, hein, puisque des menaces, moi j'en ai déjà eu sur les réseaux sociaux. Hein. Les enseignants ont peur. Hein. Les islamistes ont réussi à terroriser la République. Donc il faut que la République réagisse. La laïcité, c'est l'affaire de tous. Et on le voit très bien, hein, les Français pensent aujourd'hui que l'école est en danger et que la laïcité n'est pas respectée à l'école.
Le professeur d'histoire et élu local à la Seine-sur-Mer, Cheikh Mansour, au micro européen de Stéphane Burgat.
Alors Gabriel Attal vient aussi de lancer un cycle de 8 semaines de concertation pour trouver des solutions à la flambée de violence chez certains jeunes.
Oui, plusieurs pistes sont déjà sur la table. Scolariser tous les collégiens de 8h à 18h tous les jours de la semaine, réguler la dépendance aux écrans, sanctionner les élèves perturbateurs dans l'obtention de leur diplôme scolaire et envoyer en internat les jeunes qui semblent déraper. Comment ça va se décliner cette dernière proposition, Maïhélène Trémollet ?
Eh bien, dans le cas d'un élève en décrochage tenté par la délinquance, les parents pourraient, sur la base du volontariat et d'un échange avec les directeurs d'établissement, avoir recours à l'internat. Évoquant des dizaines de milliers de places vacantes, plus de 30 000 d'après Matignon, Gabriel Attal souligne qu'il ne s'agit pas d'une mesure répressive, mais bien d'une chance offerte à l'élève.
J'y vois une opportunité pour couper rapidement et efficacement un jeune de ses mauvaises fréquentations. Avant qu'un jeune ne tombe vraiment dans la délinquance, quand on s'aperçoit qu'il commence à avoir de mauvaises fréquentations, nous proposeront aux parents que leur enfant soit envoyé en internat, loin de son quartier et de ceux qui le poussaient à plonger.
Une solution pour garantir à l'enfant une scolarité normale, loin de son environnement nocif, non pas dans des centres spécialisés, mais bien dans des internats déjà existants. Autre formule tout juste mise en place, la pension pour mineurs sur la mauvaise pente pendant les vacances scolaires. C'est l'objet de la visite du Premier ministre et du garde des Sceaux lundi prochain à Nice. Une visite dans le premier établissement qui teste cette formule d'accueil en vacances.
Maïhélène Trémollet, Gabriel Attal a par ailleurs confirmé hier soir la baisse d'impôts de 2 milliards d'euros promise par Emmanuel Macron, à condition de faire une économie équivalente compte tenu de la dégradation des comptes publics.
En football, l'élimination des Lillois, malheureusement, hier en quart de finale de l'Europa League Conférence face à Aston Villa. Ça passe en revanche pour l'Olympique de Marseille en Ligue Europa.
Victoire hier soir face au Benfica Lisbonne, 4 tirs au but à 2 après un score de 1-0 à la fin du temps réglementaire. Dans le dernier carré, les Marseillais affronteront les Italiens d'Atalanta. Ce sera le 2 mai prochain.
Et puis à l'heure du petit déjeuner, on va se pencher sur ce qu'il y a sur la table du président de la République.
Ouais, depuis 40 ans, le chef Christophe Marguin collectionne les menus présidentiels. Il y en a 4000 qu'il s'apprête à vendre aux enchères, de Napoléon III à François Hollande pour recevoir le couple Kennedy ou la reine d'Angleterre, Marie Jiquel. La diplomatie est aussi une affaire de papilles.
Bouchée de crevettes, mousse de dindonneau, gaufres glacées, 15 plats au total pour la visite du tsar Nicolas II. Impensable aujourd'hui dans les cuisines de l'Élysée. Les dîners présidentiels ne durent que 45 minutes, chrono lancé dès le premier coup de fourchette du président, le chef et collectionneur Christophe Marguin.
Celui qui a vraiment allégé la cuisine à l'Élysée, c'est le président Sarkozy. Il ne perdait pas beaucoup de temps à table, donc il a enlevé le fromage. C'est important le fromage. Quand on est à l'Élysée, on vend la France. Donc le président Hollande l'a remis.
Ces précieux menus nous indiquent les plaisirs coupables de nos présidents, des plus modestes, le chocolat pour Nicolas Sarkozy, la bière mexicaine pour Jacques Chirac, aux plus raffinés.
Valéry Giscard d'Estaing, qui a mangé le plus de caviar à l'Élysée, et François Mitterrand, il appréciait beaucoup le caviar et les truffes, alors qu'aujourd'hui, le caviar, c'est un menu qu'on voit plus sur les menus de l'Élysée.
Mais l'invité qui fut la plus gâtée.
On reconnaît l'importance d'un invité aux vins qui sont servis.
La reine Elisabeth II.
Château d'Yquem, Mouton Rothschild et Dom Pérignon.
L'addition est un peu salée.
Oui, mais c'est pas grave, c'est le prestige de la France, on reçoit un pays ami.
La reine à qui l'on doit son choix osé pour le foie gras juste après la grippe aviaire.
Marie Jiquel.
Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant sur Europe 1, Aurore Berger face à Romain Desarbres.